plus fort.
Donc je disais qu'on va commencer, je ne sais pas, voilà, les autres arriveront plus tard. Voilà. Donc, alors moi je me présente, moi je suis Magali Cauchois, militante de lutte ouvrière, donc au Havre. Je ne suis pas sur la liste des européennes, mais il y a ici donc, Valérie Foissec qui travaille au CHU de Rouen, qui est sur la liste lutte ouvrière aux européennes. Et puis Pascal Le Manac, lui qui est ouvrier à Renault-Cléon, à côté de Rouen aussi, hein, et qui est aussi sur la liste de lutte ouvrière aux européennes. Et puis ben, sinon, ben, je ne vous présente plus, mais voilà, Jean-Pierre Mercier, qui est ouvrier à PSA Peugeot Citroën à Poissy, en région parisienne. Et puis ben, c'est lui qui va introduire le débat. Qui va commencer. C'est lui qui dirige avec Nathalie Arthaud la liste du ouvrière aux élections européennes. Et puis ben, voilà, on est là pour discuter d'une politique pour les travailleurs et de ce que lutte ouvrière a l'intention de défendre dans ces élections comme avant, dans les précédentes et puis comme après. Voilà.
Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez là ?
Oui, parfait.
Ce que je vous propose, d'abord, merci d'être venu. Ce que je vous propose, comme le disait Magali, c'est une petite introduction sur la situation sociale et puis sur les élections européennes, sur cette campagne pour les élections européennes. Et puis après, on passera au débat, un débat libre où tout le monde peut et doit pas forcément prendre la parole, mais tout le monde peut prendre la parole pour dire ses désaccords, ses remarques. Ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de défendre, et puis on essaiera de faire un bon débat. Je ne sais pas si vous avez vu ou écouté hier soir Emmanuel Macron. Bon, si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas grave du tout, parce que de toute façon, ce qu'il a dit, on s'y attendait tous. Il y a d'abord, première chose, il a absolument pas du tout égratigné les plus riches de ce pays, les ultra-milliardaires, vous savez, ceux qui ont réussi à mettre en un claquement de doigts 1 milliard sur la table pour réparer Notre-Dame de Paris. Ces grands capitalistes, cette grande bourgeoisie de ce pays, elle va pas du tout être égratignée par les propositions et les mesures que Emmanuel Macron a annoncées hier. Ceux qui vont devoir payer d'une manière ou d'une autre, ceux qui vont devoir mettre la main à la poche, c'est nous. Nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités du monde du travail, c'est nous qui allons devoir payer de toute façon les mesures qui vont être mises en place dans les semaines, dans les mois à venir. Parce que de toute façon, Emmanuel Macron, il avait déjà annoncé ça, et c'est pour ça que personne, normalement, n'était étonné de ce qu'il a annoncé hier. Avant même le grand débat, avant même cette grande mascarade, il avait annoncé qu'il l'appliquerait, il continuerait à appliquer la feuille de route de son gouvernement. Et cette feuille de route, elle a été discutée avec le MEDEF, avec le grand patronat, et avec les ultra-milliardaires de ce pays. Donc là-dessus, pas photo, ça va continuer. Il faut s'attendre, j'y reviendrai, il faut s'attendre à des coups de plus en plus durs de la part du gouvernement, mais pas que du gouvernement. Il faut s'attendre aussi à des coups de plus en plus durs du grand patronat, parce que de toute façon, ils ne veulent appliquer que cette politique-là. Alors, on fait cette réunion dans le cadre des élections européennes. Nous, Lutte Ouvrière, comme le disait Magali, on se présente, on a déposé la liste, ça y est, en bonne et due forme. On présente 79 travailleuses et travailleurs qui représentent, représentatifs de l'ensemble du monde du travail. Il y a des ouvriers, il y a des enseignants, il y a des retraités, il y a des employés, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, il y a des cheminots. Bref, c'est représentatif de l'ensemble du monde du travail. Et je vais juste parler de notre projet sur l'Europe, une perspective plutôt à long terme. Nous, notre perspective sur l'Europe, c'est une Europe réellement sans frontières, une Europe unie, une Europe des travailleurs, une Europe débarrassée des frontières, une Europe débarrassée des barbelés, des murs, des forteresses que nos dirigeants s'échinent à construire depuis des années. On met en avant une revendication qui nous paraît essentielle pour les femmes et les hommes, c'est la liberté totale de circulation, la liberté totale de s'installer à travers l'Europe. Parce que ça nous paraît essentiel. Aujourd'hui, les marchandises, les capitaux ont une liberté totale de circulation. Mais les femmes et les hommes, en tout cas, ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, ils n'ont pas une liberté de circulation. Ils ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Sauf si vous avez un compte en banque bien rempli. Si vous avez un compte en banque bien rempli, vous pouvez vous installer n'importe où, où bon vous semble. Les portes sont ouvertes, on vous déroule le tapis rouge. Par contre, quand vous êtes un travailleur, quand vous êtes même quand vous avez une bonne situation dans votre pays, ou je pense à des médecins, par exemple, qui viendraient de Syrie, des professions libérales, que vous soyez avocat, médecin, à partir du moment où vous venez de Syrie, votre vie se complique largement. Alors, ce qu'on pense de l'Europe, ça, cette perspective, c'est une perspective, évidemment, qui nécessiterait des luttes de la part des travailleurs, des luttes d'ampleur, des luttes massives, des luttes déterminées qui contesteraient le pouvoir des grands patrons, le pouvoir des actionnaires, des grandes entreprises sur l'ensemble de la société. Ce qu'on pense aujourd'hui de l'Europe actuelle, c'est une machine de guerre. Cette Europe, c'est une machine de guerre contre la population, contre les travailleurs. Depuis des années et des années que les bourgeois des différents pays d'Europe essayent de construire cette Europe, ils la construisent à leur image. Ils la construisent, c'est une Europe qui est construite par les riches, pour les riches, ni plus ni moins. C'est une machine de guerre réelle contre l'ensemble des travailleurs, contre l'ensemble de tous ceux qui n'ont que leur salaire ou que leur pension de retraite pour vivre. Et ça ne peut pas être autrement. On voit que pour les travailleurs, absolument rien n'a été fait. Il n'y a même pas un SMIC européen. Alors, Emmanuel Macron parle d'un SMIC européen. Encore faut-il s'entendre sur le niveau du SMIC européen. Si le SMIC européen devait être à 800 euros, évidemment, ça serait une mesure contre l'ensemble du monde du travail. Mais rien n'a été fait, ne serait-ce que pour uniformiser, harmoniser l'ensemble des pays d'Europe sur les droits élémentaires. J'entends comme droit élémentaire, par exemple, pour les femmes, le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il y a bien des pays dans l'Union européenne où l'Europe n'a pas voulu imposer ce droit minimum, ce droit élémentaire pour les femmes. Donc pour vous dire que cette Europe, elle est faite uniquement pour les capitaux, elle est faite pour les capitalistes, elle n'est pas faite pour améliorer la vie des populations. C'est une machine de guerre, réellement, mais tout comme l'État français est une machine de guerre contre les travailleurs qui vivent en France, tout comme les institutions françaises sont faites pour protéger les plus riches de ce pays. Autant l'Union européenne que l'État français ne protègent en rien les travailleurs. Au contraire, ce sont pour faciliter l'exploitation, faciliter la domination des bourgeois sur l'ensemble de la population. Et dans l'Europe, c'est pour faciliter ceux qui donnent le ton, ceux qui font la loi en Europe. C'est pas les petits pays d'Europe, c'est pas les pays les plus pauvres, c'est les pays les plus riches. Et pays les plus riches, la France en fait partie. C'est un des pays les plus riches avec l'Allemagne. Et c'est la France, quand je dis la France, c'est l'État français, c'est l'État allemand qui font la loi en Europe. C'est pas que l'État allemand, comme certains à gauche ou à droite peuvent le sous-entendre. Emmanuel Macron, dans cette affaire, il est autant responsable que Merkel sur l'élaboration de la politique européenne pour défendre l'exploitation des capitalistes sur l'ensemble des travailleurs. Alors, on voudrait, dans le débat politique actuel, on voudrait faire en sorte de nous forcer à choisir entre ceux qui seraient pour l'Europe, une Europe progressive, une Europe même sociale. Emmanuel Macron, il emploie ce terme-là. Et puis, ceux qui seraient contre l'Europe, qui seraient pour que les pays se renferment sur eux-mêmes. Là, je parle de Marine Le Pen. Ça serait les pro-européens contre les anti-européens. Bah, nous, Lutte ouvrière, on ne veut absolument pas tomber dans ce piège-là. Et on se présente justement pour proposer un troisième choix. Un troisième choix à l'ensemble du monde du travail. Un choix qui, pour l'avenir, pourrait compter. En tout cas, qui compte aujourd'hui, c'est proposer au monde du travail de défendre ses intérêts de travailleurs, ses intérêts économiques, ses intérêts politiques. Quand j'entends travailleurs, j'entends chômeurs, retraités du monde du travail, l'ensemble du monde du travail. Parce que on défend cette idée fondamentale que les travailleurs dans cette société ont des intérêts spécifiques à défendre contre non seulement les gouvernements, mais contre les capitalistes des grandes entreprises, contre cette grande bourgeoisie. Et il faut qu'on se présente à ces élections européennes pour donner la possibilité aux travailleurs, en votant Lutte ouvrière, de voter pour leurs intérêts, de voter pour un programme de lutte, pour des objectifs de lutte qui nous paraissent, nous, à Lutte ouvrière, incontournables, nécessaires, vitales pour les travailleurs quand ils auront repris confiance dans leur force collective. Alors ce programme de lutte, il n'a pas été fait par hasard. Il tient compte de la situation sociale et notamment de ce que les Gilets jaunes, ils ont réussi par leur mobilisation, par leur action collective, par leurs plus de cinq mois de mobilisation, à mettre au cœur du débat, c'est la question essentielle du pouvoir d'achat des travailleurs, du pouvoir d'achat des chômeurs et des retraités. C'est une constatation qu'on fait tous, c'est qu'aujourd'hui, et ça dure depuis des années, on n'arrive plus à vivre de son salaire, à vivre de son emploi, de son boulot, quand on a la chance d'en avoir un, parce que ça commence à devenir une chance, et on n'arrive plus, quand on a travaillé toute sa vie, à vivre dignement de sa retraite. Et augmenter la question, pour résoudre la question du pouvoir d'achat, nous, on voit qu'une seule solution. C'est d'augmenter les salaires fortement, d'augmenter les allocations, d'augmenter les pensions pour les invalides et d'augmenter les pensions de retraite. Il n'y a pas 36 solutions. Et les autres solutions que les uns et les autres nous proposent, en fait, ce sont des fausses solutions. On pourra y revenir dans le débat si vous voulez. Mais pour nous, c'est extrêmement simple. C'est augmenter nos salaires. Mais ce n'est pas que ça. Il ne faut pas que les travailleurs se limitent à mettre en avant cette revendication pour résoudre le pouvoir d'achat. Parce qu'on se rend compte que là, par exemple, si on prend l'exemple des Gilets jaunes, ils ont démarré le mouvement, leur mobilisation, pour protester contre l'augmentation d'une taxe sur les carburants. Souvenez-vous, maintenant c'est le 17 novembre, Emmanuel Macron, pour remplir les caisses de l'État, pour continuer à donner des aides publiques aux grandes entreprises privées, eh ben, il fallait que nous, on mette la main à la poche. Et une des mesures, pas la seule, mais une des mesures qui a mis un peu le feu aux poudres, ça a été d'augmenter cette taxe sur les carburants. Emmanuel Macron a reculé, provisoirement. Il a annoncé au mois de décembre que cette taxe sur les carburants était gelée pour un an. Pour un an seulement. Donc déjà, problème, c'est que pour un an. Mais le prix du gasoil ou de l'essence, même s'il a baissé temporairement, là, quand vous faites le plein à la pompe, voilà, c'est reparti, même à des prix bien plus hauts qu'au moment du 17 novembre. Ça veut dire que notre problème, pour protéger notre pouvoir d'achat en tant que travailleur, il faut non seulement qu'on augmente nos salaires, qu'on impose des augmentations de salaire, mais il faut qu'on impose un système qui puisse faire que notre pouvoir d'achat il soit toujours protégé, qu'il ne soit pas attaqué. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fasse que notre salaire, notre allocation, notre pension de retraite augmente en même temps que les prix augmentent. Parce que sinon, c'est toujours nous, les travailleurs, qui nous ferions avoir. On sera toujours les dindons de la farce. Et on a un exemple, je le rappelle, en mai 68, grande grève générale, 10 millions de travailleurs dans la rue, la France à l'arrêt complet, pendant plusieurs semaines, où a été obtenu, a été arraché, imposé au patronat une augmentation de 30% du SMIC. 30% du SMIC. C'est pas là les 100 euros que Emmanuel Macron il a donné au mois de décembre. 30% du SMIC. En quelques mois, ces 30%, ils ont été bouffés, ils ont été rattrapés par l'augmentation des prix. Ça veut dire que imposer des augmentations de salaire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il ne faudra pas que les travailleurs se limitent à cette revendication d'augmenter les salaires ou les pensions de retraite. Et là, quand on voit Emmanuel Macron, je fais juste une petite parenthèse, qui a annoncé hier la réindexation des pensions de retraite sur l'augmentation des prix, ok, là, les retraités, ils vont gagner 1% dans l'affaire. Ils vont gagner que 1%, 15-20 euros, pas plus, pour les petites retraites. Mais c'est indexé sur un indice des prix qui est complètement faux, qui est complètement bidon, qui est complètement truqué. Quand l'INSEE annonce 1,6% d'augmentation des prix sur 1,6% d'inflation, c'est bidon. Il faut savoir que c'est un mensonge énorme qu'ils sont en train de nous livrer. Parce que, juste un petit exemple, dans l'indice des prix que l'INSEE calcule, le loyer, notre loyer, il représente 6% de notre affaire, de notre salaire. 6% simplement. Faites le calcul. Vous savez combien vous payez le loyer, ça ne fait pas 6% de votre revenu. On est largement au-dessus, largement au-dessus. Donc ça veut dire que cet indice, il est complètement bidon. Il faudra que les travailleurs défendent un autre indice des prix et puis qui contrôle cette affaire. Sur deuxième objectif de lutte dans ce programme qu'on propose à ces élections européennes, c'est sur le chômage. Le chômage, c'est un cancer qui ronge l'ensemble de la société. Et on voit que là, ils nous disent que le chômage a reculé très légèrement, etc. D'où on sait, parce qu'on le vit, que c'est complètement bidon là aussi. Quand on est chômeur et qu'on reprend un boulot, c'est la plupart du temps un boulot précaire, c'est des petits boulots, c'est des CDD, c'est de l'intérim, c'est des petits contrats, et on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que, en face, les patrons, ils licencient à tour de bras. Ils ont le feu vert pour licencier à tour de bras, pour fermer les usines et pour supprimer les emplois. Alors, il y a une mesure qu'il faudra que les travailleurs mettent en avant dès aujourd'hui, qu'ils défendent dès aujourd'hui pour tenter de l'imposer lors de grandes grèves, de grandes mobilisations dans l'avenir, c'est l'interdiction des licenciements. Nous, on défend cette idée depuis des années qu'en temps de crise économique, un patron, ça devrait lui être interdit de licencier ou de supprimer un emploi. Parce que licencier un travailleur aujourd'hui en temps de crise économique, nous, on appelle ça un crime social. Parce que ça veut dire qu'on lui enlève le pain de la bouche, on lui enlève de quoi vivre, on lui enlève de quoi faire vivre sa famille. Et c'est très rapidement aujourd'hui, surtout avec les mesures qui sont en préparation par rapport aux allocations chômage, c'est très rapidement faire tomber des travailleurs dans la misère, dans le RSA, et même plus grave que ça. Et là, on s'en sort de moins en moins. Donc oui, il faut qu'on défende cette idée fondamentale, qu'on la popularise, cette mesure incontournable d'interdire les licenciements et d'interdire les fermetures d'usines. Et puis, il y a une troisième mesure qui nous paraît aussi vitale. Quand on voit en plus ce qui se passe dans la société, quand je dis dans la société, c'est là où ça baigne dans les milliards, c'est que les travailleurs, il faut qu'ils imposent le contrôle, leur contrôle sur la société et sur ce qui se passe non seulement dans l'État, dans le gouvernement, dans les décisions qui sont prises, mais aussi dans les entreprises privées. Les Gilets jaunes, au fil de leur mobilisation, ont mis en avant des revendications qui étaient légitimes, qui sont aussi vitales, qui étaient, par exemple, et qui est toujours, c'est toujours à l'ordre du jour, de contrôler l'utilisation de l'argent public. L'argent public, c'est quoi? C'est l'argent de nos impôts. De nos impôts. C'est pas l'argent des impôts, c'est l'argent de nos impôts. Parce que les riches, ils en payent de moins en moins d'impôts. On l'a vu avec Macron, mais ça ne date pas que de Macron. Ça date aussi de Hollande, ça date aussi de Sarkozy. Et chacun y a été par des suppressions d'impôts pour les plus riches. Donc oui, c'est légitime que la population, que les travailleurs contrôlent l'utilisation que le gouvernement fait de nos impôts. Mais c'est tout aussi légitime de contrôler ce qui se passe dans les entreprises et ce qui sort des entreprises privées. Moi, je travaille dans un groupe, Pascal aussi, groupe Renault et groupe PSA, c'est exactement la même affaire. Groupe PSA, on, quand je dis on, c'est les travailleurs de PSA, les sous-traitants, les intérimaires, ont sorti 3,3 milliards de bénéfices, net, après impôts, après avoir tout payé. L'utilisation de ces 3,3 milliards de bénéfices, C'est les actionnaires de PSA qui vont en décider, eux seuls, dans leur conseil d'administration. Là-dedans, il y a la famille Peugeot, une de ces grandes familles bourgeoises, tout comme la famille Pinault, la famille Arnault, et puis la famille Bettencourt, c'est les plus connus. Mais la famille Peugeot, quand elle va décider d'utiliser ses bénéfices, ses dividendes, elle va rendre de compte à personne, ni à Macron, ni aux députés, encore moins aux syndicats, et alors encore moins aux travailleurs. C'est freelance pour eux. Ils font ce qu'ils veulent avec cet argent-là. Alors c'est nous qui l'avons produit. Tout ça parce qu'ils invoquent la propriété privée qu'ils ont sur les grands moyens de production, sur les usines PSA. Et c'est exactement pareil pour Renault, c'est exactement pareil pour toutes ces grands trusts industriels, bancaires, financiers, de la chimie, tous les secteurs d'activité. Alors oui, il faudra que les travailleurs y mettent le nez dans les comptes de cette grande bourgeoisie, de ces actionnaires, de ces grandes entreprises. Parce que sinon, ils ont les mains libres, ils en font ce qu'ils veulent. Et ce qui, quand on voit là, avec cet épisode de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce qui a le plus choqué, c'est évidemment les centaines de millions qui ont été mis sur la table. Mais c'est la facilité avec laquelle ils ont pu mettre 1 milliard sur la table. Et encore, toute la bourgeoisie n'a pas mis la main à la poche. Alors évidemment, derrière, il y a une opération de communication. Il y a une opération même fiscale. Même si certains de ces bourgeois, comme Pilot, a dit, moi, les 60%, je ne les prends pas, je mets 100 millions cash. Voilà, 100 millions cash. Alors, on est forcément choqués avec cette facilité. Mais il faut savoir que, pour eux, c'est courant, c'est quotidien. Ils fonctionnent comme ça, ils vivent comme ça. Ils peuvent, là, Bernard Arnault vient d'acheter un yacht. Son yacht, c'est 130 millions. Sans problème. Ils s'achètent des châteaux. Ils ont des jets privés. Et ils vivent comme ça, dans le luxe, dans l'ultra-luxe. Pour que ces bourgeois, cette petite minorité de bourgeoisie, ils puissent vivre dans le luxe, il faut que nous, on crève. Parce que leur train de vie, il se fait sur le dos de la société, avec la peau des travailleurs, avec la peau des chômeurs, avec la peau des retraités. Alors oui, les travailleurs, ils ont de quoi revendiquer, ils ont de quoi être en colère. Et il faut absolument qu'ils mettent en avant leurs intérêts de classe, de travailleurs. Parce que pour financer les augmentations de salaire, pour financer le fait qu'on doit interdire les licenciements et se répartir le travail entre tous, pour qu'on puisse tous travailler et travailler moins, on ne veut pas travailler plus, il faut de l'argent, il faut des millions, il faut des milliards. Ben, ces milliards, ils existent. Ils existent dans quelques poches de personnes, de familles qui sont dans cette société. La France est un pays ultra riche. C'est une des principales puissances économiques mondiales. Eh bien, on se rend compte que dans un pays, un des plus riches du monde, sa population n'arrive pas à vivre dignement, n'arrive pas à se loger dignement, n'arrive plus à aller se faire soigner correctement, n'arrive plus à faire que ses enfants soient éduqués correctement à l'éducation nationale parce que les profs, le personnel d'enseignement n'a plus les moyens pour travailler correctement. Je parle de l'ensemble de la population. Et il est là le problème. Il est que les richesses qui sont fabriquées dans ce pays sont accaparées par une toute petite minorité, cette grande bourgeoisie, qui s'accapare toutes les richesses et qui se comporte dans le pays comme un réel rouleau compresseur. Parce que pour qu'eux, ils continuent à s'enrichir, il faut que nous, on s'appauvrisse de plus en plus. Alors oui, nous, les travailleurs, on a des intérêts spécifiques à défendre. Et pour les défendre, il faut avoir conscience, déjà, contre qui on doit se battre. Alors là, je vais parler d'une idée qui, nous est chère à Lutte Ouvrière, qui ne fait peut-être pas l'unanimité, mais ça fera peut-être, sans doute, j'espère en tout cas, l'objet du débat. On l'entend beaucoup dans les manifestations, et c'est même repris par certains partis de gauche, ça peut même faire l'unanimité à droite, Macron démission. Et on le comprend que Macron soit vomi, parce qu'il est un des responsables de la politique depuis 2 ans, là, où nous, la population, les travailleurs, on s'en prend plein la tête. Voilà, on met la main à la poche, on s'en prend plein la tête. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si Macron devait démissionner, et c'est pas près d'arriver, si Macron devait démissionner, il serait remplacé par qui ? par un autre pantin, par un autre valet. Ceux qui dirigent la société, ce n'est pas des Macron. Les Macron, ils sont des exécutants. Ceux qui dirigent la société, c'est justement ceux qui possèdent les moyens de production, ceux qui possèdent les grandes entreprises. Je vais vous donner un exemple qui est parlant et qui est frappant, et qui ne vient pas de nous, qui vient de ce qui s'est passé au gouvernement. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, numéro 2 du gouvernement. C'est pas rien, numéro 2 du gouvernement, il est juste en dessous du Premier ministre, le gars. Il n'y avait pas un petit strapontin. Il a démissionné. Démissionné pourquoi? Ça a été même son, peut-être son seul instant de sincérité. Il a avoué que, face au lobby, il n'arrivait pas, à lui, à mettre en place sa politique pour la défense de l'écologie, s'il en avait une. Ça, c'est encore autre chose. Alors, c'est quoi les lobbies qu'il avait en face de lui? Les lobbies, bah, c'était les lobbies du nucléaire. C'est les représentants des actionnaires d'Areva, de cette grande entreprise, ce trust. C'est les industriels des pesticides, c'est les industriels du plastique, c'est les industriels, c'est les grands patrons de l'automobile, du pétrole. C'est ces capitalistes, ces représentants de capitalistes, ils ont plus de pouvoir qu'un ministre d'État numéro 2 du gouvernement. Pour vous dire que ce qui se passe au gouvernement, c'est juste une exécution de ce que les grands de ce monde, comme on a l'habitude de les appeler, les ultra-riches, ils demandent pour que leur train de vie, leur richesse, leur domination continue sur l'ensemble de la société. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Macron, voilà, moi j'ai l'habitude de dire, c'est le Benalla de Bernard Arnault, de Pinault. C'est juste un exécutant. C'est peut-être le bras armé, mais c'est que un bras. Le cerveau, il y a autre part. Et bien sûr que si Macron devait démissionner suite à un renforcement du mouvement, de la mobilisation, etc., ça serait ressenti comme un succès, ça c'est imparable. Tant mieux, tant mieux. On dirait tant mieux, il a démissionné, tant mieux, il dégage. Pas de problème, personne ne va le pleurer. Mais derrière, la grosse question, c'est qui c'est qu'on met à la place? Et est-ce qu'on garde le système? On a l'exemple en Algérie, suite à, on peut même dire une révolte, une mobilisation populaire, ils ont fait caner Bouteflika. Bouteflika, il devait remplir pour un cinquième mandat. On ne sait même pas s'il avait dit oui. C'était quelqu'un, un clan qui parlait pour lui. Bon, le mouvement populaire, les manifestations de rue, des millions d'Algériens, de travailleuses, de travailleurs algériens, ils ont fait en sorte que Bouteflika, il dégage. C'est un autre, c'est son meilleur copain qui a pris la relève. Alors la mobilisation continue. Mais continue jusqu'à quand? C'est ce que je veux dire par là, c'est quel objectif on se donne. Si on se donne comme objectif simplement de virer Bouteflika, de virer son successeur, comme de virer Macron et de virer son successeur, on n'arrêtera pas de descendre dans la rue. Parce qu'on aura toujours un pantin en face de nous. Un pantin qui sera aux ordres des riches. Ce que je veux dire, c'est que les travailleurs, ils doivent avoir conscience que, bien sûr, que Macron, il est en guerre contre les travailleurs. Mais que ceux qui décident, c'est ceux qui possèdent les actions. C'est les grands actionnaires des grandes entreprises. C'est tous ceux qui ont mis, là, en partie, le milliard sur la table. C'est contre eux qu'il faut s'attaquer. Et ça, à Lutte ouvrière, on est les seuls à le dénoncer. On est les seuls parce qu'on est communiste, parce qu'on est révolutionnaire, parce que, sur le fond, notre objectif, la perspective que l'on défend, c'est de changer radicalement la société. C'est de faire en sorte qu'elle fonctionne autrement. Qu'elle fonctionne non pas sur le profit, non pas avec comme seul moteur l'argent pour enrichir une minorité, mais qu'elle fonctionne autrement pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la population. Et ça, on est les seuls à défendre cette perspective-là parce que c'est la seule qui est valable. Alors, démobilisation, de la contestation. Là, il y a la contestation des gilets jaunes. Elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas finie. Malgré toutes les tentatives du gouvernement, elle continue, elle tient bon, tant mieux. Mais ça ne sera pas la dernière. Il va y avoir d'autres contestations, d'autres mobilisations. Et nous, on fait le pari, on mise sur les mobilisations, la contestation de la classe ouvrière, des travailleurs, des grandes entreprises. Alors pourquoi? Pourquoi on a cette fixation? Pourquoi on milite en direction de la classe ouvrière, en direction des travailleurs? Et pourquoi on défend cette idée fondamentale que les travailleurs, c'est eux qui ont cette force, cette capacité de transformer la société et de défendre même les intérêts de l'ensemble de la société? Bah parce que, un, premièrement, le changement, il ne peut venir que par en bas. Il ne peut venir que par en bas. Il ne peut pas venir par en haut. démonstration, les gilets jaunes, ils ont fait, ils ont obtenu un certain nombre de concessions au mois de décembre de Macron, très insuffisantes, certes, c'était le fruit du rapport de force qu'ils avaient réussi à mettre en place. Voilà. Mais ça a été très limité. Et on voit, par exemple, en Algérie, mais pas qu'en Algérie, au Soudan, les manifestations populaires, quand le peuple il se met en bagarre, quand les travailleurs ils se mettent en bagarre, là, ça change la donne. Et les choses, elles évoluent, elles peuvent évoluer extrêmement vite, extrêmement vite. Et c'est ça, nous, on défend cette idée dans ces élections, justement, que ce n'est pas le bulletin de vote qui peut changer la vie des travailleurs, mais c'est leur lutte collective, leur mobilisation. Et puis la deuxième chose, c'est que les travailleurs, ils sont au cœur du système, ils sont au cœur de la société, ils sont au cœur de là où sont fabriquées les richesses de l'ensemble de la société. Et quand on veut s'attaquer au système, eh ben, ceux qui sont les mieux placés, eh ben, ce sont les travailleurs. Parce que non seulement ils font fonctionner toute la société, si les travailleurs ils arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais deuxièmement, c'est eux qui fabriquent les richesses, c'est eux qui fabriquent les milliards. Occuper les ronds-points, c'est bien, c'est de la contestation, c'est de la mobilisation. Mais occuper les usines, occuper les grandes entreprises de ce pays, c'est là, c'est mieux, et c'est là où on pourra être les plus efficaces. Où les travailleurs, ils peuvent peser sur les événements politiques, les décisions politiques, mais aussi, ils s'attaquent contre leurs propres exploiteurs, contre leurs propres patrons, contre les actionnaires de ce pays-là. Et c'est là où on a la meilleure façon, la meilleure perspective, la façon la plus efficace de se faire entendre et d'imposer des conditions, d'imposer un programme, des mesures, des revendications qui pourront changer la société et qui pourront donner un véritable oxygène sur l'ensemble de la société. Alors, on défend toutes ces idées-là, pas seulement pendant les élections européennes, pas pendant cette campagne-là. On les défend depuis des années, bien avant la mobilisation des Gilets jaunes. Voilà, ça fait des années qu'on les défend. On continuera évidemment à les défendre après les élections européennes, parce que pour nous, les élections européennes, c'est pas une fin, c'est pas un but, c'est un moyen de populariser des perspectives, des idées, un programme de lutte qui seront vital, incontournable quand les travailleurs ils auront repris confiance dans leur force collective, où aujourd'hui on constate tous pour l'instant que cette confiance elle n'est pas encore au niveau des attaques, elle n'est pas encore au niveau de la situation. Mais on a cette particularité, et là aussi parce qu'on est des communistes, on est des communistes révolutionnaires, on a en nous, dans nos idées, cette confiance inébranlable dans la capacité de nos camarades de travail, des travailleurs en général, des chômeurs, des retraités, à se mettre en bagarre, à se mettre en grève, à lutter, à se mettre ensemble, et puis à avoir cette volonté de changer la société, et puis de faire en sorte que la vie, elle change véritablement pour l'ensemble du monde du travail et l'ensemble de la société. Voilà ce que je voulais dire en introduction.